Bienvenue à toutes et à tous. Donc, pour poursuivre les formats thèse en poche, ce soir, la présentation faite dans le cadre des thèses de pharmacie hospitalière sur la chambre des erreurs médicamenteuses, une réalité régionale au parcours immersif en 360 degrés, présentée par Simon Rodier, qui a déjà quelques mois soutenu son mémoire de DES. Comme tous les ans, le schéma de la présentation de ce soir sera d'abord l'exposé du travail fait par Simon. Et on pourra dans un second temps évoquer les aspects relatifs à qu'est-ce qu'une thèse, comment se travaille une thèse, se formule une thèse et se soutient-elle. Voilà. Merci à toi.
Merci Guillaume. Je suis pharmacien, praticien hospitalier contractuel au centre hospitalier intercommunal à Alençon-Mamers. Je suis référent en simulation dans une association que vous connaissez peut-être, Association pour le digital et l'information en pharmacie. Et je fais partie du groupe de travail simulation de la Société française de pharmacie clinique. Alors je vais revenir sur mon cursus parce que c'est peut-être ça qui vous intéresse, savoir comment on arrive à son projet de thèse, comment il mature, comment il fait pour arriver et avec un certain nombre de points qui permettent de la soutenir au final avant de pouvoir prendre son poste. J'ai commencé mon internat en 2012 avec un semestre polyvalent au centre hospitalier de Lisieux. Ensuite, deux semestres plus spécialisés au CHU, essais cliniques et pharmacotechnie oncologique. Un autre semestre spécialisé en psychiatrie à l'EPSM de Caen, que j'ai complété avec un DU de chimiothérapie anti-infectieuse que certains connaissent certainement. Durant ces deux années, je pense comme vous, l'objectif c'est de maîtriser le fonctionnement hospitalier, le découvrir, voir ses grandes spécificités, les circuits pharmaceutiques qui sont nombreux, qui sont complexes et qui sont interconnectés. Et puis voir la pluralité d'exercices du pharmacien, des domaines très différents, variés. Et donc bien maîtriser le devenir et savoir ce qu'on va faire plus tard. Ensuite, trois années de 2014 à 2017, plus orientées, déjà plus focalisées, avec un semestre au centre hospitalier de Lisieux pour amorcer ce travail de thèse que je vous présente aujourd'hui. Six mois avec Guillaume Saint-Laurent, version qualité gestion des risques, vous connaissez son domaine. Et puis ensuite, deux années au CLCC de Caen, à Baclès, avec un semestre, une année recherche, et six mois de faisant fonction d'interne, que j'ai complété avec un diplôme universitaire de gestion des risques en santé et un master de recherche à l'université Lille 2. Ces deux années m'ont permis de me rendre compte que la gestion des risques des produits de santé était quelque chose de primordial, un fil conducteur que j'ai souhaité avoir tout au long de mon cursus par la suite. Et puis avec une orientation bien évidemment sur la prise en charge oncologique et notamment la pharmacotechnie oncologique. Et puis la création d'une thématique de recherche sur l'exposition, l'évaluation de la contamination des professionnels de santé qui manipulent au quotidien les chimiothérapies. Et donc, en tant que pharmacien, on en fait évidemment partie. Ensuite, en 2017, j'ai fait mon dernier semestre au centre hospitalier d'Alençon. Et puis derrière, j'ai pris mon poste. Donc pour ça, il a bien évidemment fallu que je termine mon DES, que je le valide, et qui, effectivement, était lié à la thèse d'exercice, puisqu'on a la possibilité encore d'avoir les deux en un. Et ensuite, donc, j'ai abouti à un exercice totalement polyvalent de la pharmacie hospitalière, avec une structuration toujours, un fil conducteur par la qualité gestion des risques. Et puis, ça, j'insiste là-dessus, pour les internes, intéressez-vous toujours à la posture managériale du pharmacien hospitalier. Comment on manage son équipe? Comment on manage ses projets? Comment on manage ses process? Quels indicateurs on suit? Quels objectifs on se fixe? Ça, c'est très important. Commencez dès maintenant. Vous verrez, ça vous servira. Alors, c'est un projet, le projet de thèse, c'est un projet associatif. Et je suis tombé dans l'associatif avec l'association des internes que vous connaissez, avec qui on a mené des projets, notamment énormément liés avec le travail du coordonnateur de DES, Guillaume Saint-Laurent. Donc je ne reviens pas sur ces projets-là, mais je pense que c'est quelque chose de fort, de structurant, notamment avec une implication individuelle, mais un bénéfice collectif. C'est quelque chose qui doit ressortir de ce travail associatif. Et puis ensuite, je l'ai poursuivi au sein de l'Association pour le digital et l'information en pharmacie. Je fais juste un petit peu de pub, j'en profite. On gère les offres d'emploi. Vous savez que derrière, si vous avez un poste de pharmacien, c'est 9 fois sur 10 grâce à la DIF. On modère les échanges entre pharmaciens. Ça, on a un gros travail là-dessus pour justement faire parler tout le monde. On fait des fiches de synthèse qui sont très intéressantes sur les différentes problématiques pharmaceutiques que l'on peut rencontrer à l'hôpital. Et puis, c'est mon rôle, développer les outils de simulation numérique en santé, qu'on a largement valorisé et qu'on continuera à le faire, notamment avec les internes ici présents qui travaillent avec moi sur le sujet. Alors, la simulation en santé, on va en parler un petit peu ce soir, c'est l'objectif. Je vais vous épargner toute la partie gauche, qui est finalement la simulation historique, celle qui est plutôt organique, que ce soit sur de l'animal, sur du cadavre, c'est très médical, hein, apprendre à disséquer pour mieux derrière maîtriser sa propre pratique. Vous avez tout ce qui est également synthétique, les patients qui sont les mannequins de patients qui permettent de s'entraîner soit à la pose d'une voie veineuse, soit au sondage urinaire, ou alors à interagir avec lui, lui faire simuler un arrêt cardiaque par exemple. Et puis ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est uniquement cette partie-là, la partie électronique avec les interfaces naturelles et notamment la réalité virtuelle. Alors pourquoi la simulation? Ça c'est important. En gros, après 2 semaines, on a retenu 10% de ce qu'on a lu, 20% de ce qu'on a entendu. Désolé pour vous ce soir. Et par contre, on retient 90% de ce qu'on a fait. Donc ce soit simuler une expérience, présenter une expérience, expérimenter, on apprend beaucoup mieux comme ça. C'est prouvé et donc, aujourd'hui, il faut s'intéresser à ce mode de pédagogie. Alors, le lien avec la chambre des erreurs. Vous connaissez certainement les chambres des erreurs, donc ce sont des outils de simulation, qui s'en approchent dans la finalité, destiné à sensibiliser et ou former aux événements indésirables associés aux soins. Ce sera un focus également de la soirée, les événements indésirables associés aux soins et notamment les erreurs médicamenteuses, qui ont été notamment utilisées lors de la semaine sécurité des patients. Donc semaine sécurité des patients que vous connaissez certainement aussi en novembre, où finalement on fait un focus sur tout ce qui permet de sécuriser la prise en charge des patients. Donc on en a fait des outils ludiques, économiques et efficaces. Ça, c'était très bien. Ces outils-là, historiquement, ils viennent de la Patient Safety Week du Canada en 2006. Ils ont mis 6 ans à traverser l'Atlantique. Et puis en 2012, on en a fait. Puis en 2013, on en a refait. Puis en 2014, bah, vous vous en doutez, on en a refait. Et puis on les a déclinés, on a fait différentes versions. Puis à un moment, on s'est dit, bon, bah voilà, l'effet de nouveauté, il s'estompe. C'est normal. Et donc, bah, on avait finalement peu d'innovation. C'est là qu'on s'est dit, à chaque fois, c'était des projets physiques, réels, palpables. On s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas du numérique? Alors pourquoi le numérique? Bah, vous voyez, j'ai mis mon portable à charger, le numérique, il y en a partout. Dans la vie personnelle, la vie professionnelle, c'est devenu indispensable. Ça permet de renforcer l'attractivité de l'outil. Ceux qui en doutent encore, vous mettez une tablette à un enfant, vous voyez le résultat. Ça simplifie la mise en œuvre, puisque les chambres des erreurs, le gros inconvénient, c'était les groupes de travail qu'il fallait faire 3 à 4 mois avant, se réunir 6, 7 fois, y passer des heures et des heures. Là, l'idée, c'était de fournir un scénario clé en main. Améliorer l'accessibilité technique. Dans un gros centre, on peut faire pas mal de choses. Dans les petits, c'est plus compliqué. Quand vous êtes seul pharmacien à 0,8 ETP, comment vous faites pour gérer votre routine et puis ses projets de formation? Donc là, d'un simple clic, vous pouvez avoir un outil innovant. Améliorer l'accessibilité temporelle et géographique, vous pouvez le faire d'où vous voulez, quand vous voulez. On pense notamment aux équipes de nuit, c'est très bien de faire des formations, les formats 14, 16, 16, 18, mais quand on travaille de nuit, comment on fait? C'est un horaire sur lequel on dort. Voilà, je vous donne des petits tuyaux. Pensez toujours à votre cible. Améliorer l'accessibilité socio-économique, ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur, puisque finalement, aujourd'hui on parle beaucoup d'équité d'accès aux soins, mais l'équité d'accès à la formation, est-ce qu'on en parle? Quand on est dans une ville où on a un centre de simulation en santé, comme ici, c'est parfait. Quand on est en plein milieu de l'Orne, comment on fait? Quand on est dans la Creuse, comment on fait? C'est des bonnes questions, mais il faut se les poser. Et puis, améliorer l'accessibilité intellectuelle en ayant surtout des scénarios qui sont validés, qui sont compréhensibles, qui ne sont pas interprétables. Et ça, c'est quelque chose qui est également très important. Participer à la transformation de l'enseignement. Je vais me faire un petit peu volontairement provocateur au sein du PFRS, mais les cours magistraux, c'est terminé. Aujourd'hui, le savoir, il est externe. Le disque dur externe s'appelle Google, on le sait tous. Donc en fait, le rôle de l'enseignant, il n'est plus le même qu'il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, il doit animer, il doit justement être un expert de la pédagogie. Et puis, faciliter l'interfaçage avec les plateformes de cours, ça, on pourra en parler un petit peu juste à la fin, sur une perspective qui me semble intéressante. Alors maintenant qu'on sait qu'il faut virtualiser, c'est comment on virtualise? Bien, il y a plusieurs façons de le faire, on ne va pas revenir sur toutes les façons de virtualiser. Nous, ce qu'on a choisi, c'est le parcours immersif à 360 degrés. Vous connaissez tous Google Street View, vous avez tous tester, c'est normal. Ça permet une utilisation parfaitement classique avec un ordinateur et une connexion Internet. Alors j'ai mis une connexion d'ailleurs, c'est marrant parce que tout passe en Wi-Fi maintenant. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'on pouvait connecter ça à un casque de réalité virtuelle, donc un téléphone. Je vous le mets ici. Tout le monde connaît. Ça fera un petit peu de déambulation. En fait, ce que vous récupérez, surtout en faisant ça, c'est l'effet « wow », ce qu'on appelle le « wow effect » en anglais, qui est très connu. C'est-à-dire que vous dites à des professionnels « je vais vous proposer une formation à l'erreur médicamenteuse ». Ils vont dire « ah ouais, non, ouais, bah je sais pas, je verrai ». Vous leur dites « si, si, mais c'est là-dedans ». Et là, ils vous disent « ah ouais, en fait, c'est pas mal, je vais venir ». Ça permet de rendre un peu sexy la formation. Alors là, c'est des diapos que j'ai mis un peu en vert, c'est juste en off pour vous dire comment on a réfléchi le projet. Ça sort totalement du diaporama de thèse et puis du cadre. En fait, c'était surtout pour vous montrer les critères qui nous ont permis de réfléchir à pourquoi on fait ça. En comparant notre modèle par rapport à la simulation réelle, celle sur laquelle on s'est basé, et puis les simulations notamment en images de synthèse, les serious games classiques qu'on connaît bien, qui sont très intéressants et tout à fait complémentaires. En fait, tous ces critères-là, on ne va pas revenir dessus, mais il faut y penser. Est-ce qu'on est meilleur d'un point de vue sensibilisation-formation, d'un point de vue réalisme, d'un point de vue immersivité, d'un point de vue collaborativité quand on travaille avec l'outil, évolutivité, disponibilité, portée, diffusion, matériel nécessaire, et puis le nerf de la guerre, le coût. Que ce soit le coût initial ou le coût des évolutions, ça c'est très intéressant. Vous posez la question du coût initial à ceux qui font du serious game en image de synthèse, ils vont vous le donner, vous leur demandez le coût des évolutions. Les chiffres sont nettement plus compliqués à obtenir. Voilà pour l'aspect un petit peu ouverture par rapport au projet de thèse. Et puis, il a fallu bien évidemment se poser la question du public cible. Est-ce qu'on veut un public large? Est-ce qu'on veut un public restreint? Est-ce qu'on veut quelque chose d'interprofessionnel? C'est très important. Vos objectifs pédagogiques ne seront pas du tout les mêmes. Si vous ciblez tous les professionnels de santé, uniquement les pharmaciens préparateurs, uniquement les médecins, les infirmiers, donc là, je vous ai mis quelques pistes. Donc, quels que soient vos projets de thèse, pensez toujours comme ça à savoir vers quelle cible vous voulez aller. Ensuite, quels objectifs pédagogiques? Est-ce que vous voulez faire juste de la sensibilisation, dire « attention, il y a des erreurs » ou de la formation? Les erreurs sont sur tel produit, pour sécuriser tel produit, je mets telle action en œuvre. Est-ce que vous voulez tester la connaissance? Je sais qu'une insuline se stocke au réfrigérateur. Est-ce que vous voulez tester de la compétence technique? Qu'est-ce que je fais face à telle situation? Ou de la compétence non technique? Situation d'urgence, bris de flacon, comment je m'organise? Qui prend le leadership? Comment on communique? Voilà, des choses comme ça. Des compétences purement non techniques qu'on peut utiliser dans tous les domaines, que ce soit le domaine médical, l'aviation, l'aéronautique et j'en passe. Je reviens donc sur notre thèse. Ce qu'on a choisi, nous, pardon pour le petit raté, c'est d'orienter l'outil vers la prise en charge médicamenteuse. Logique pour un pharmacien. En n'oubliant pas les deux circuits, enfin c'est le même, on est d'accord, hein, mais le circuit clinique avec la prescription, la dispensation, l'administration, l'évaluation et le suivi du médicament, et puis le circuit logistique, qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est pareil, durant votre internat, intéressez-vous à ce circuit. Un médicament efficace, c'est déjà un médicament qui est bien acheté. Il faut ensuite qu'il soit approvisionné, qu'il soit bien transporté, bien stocké, bien préparé. Vous les voyez, les erreurs à ces différents niveaux. Vous en avez tous vu durant vos semestres. Donc c'est comme ça qu'il faut, à mon avis, raisonner. Voir des erreurs sur les deux circuits. Alors une fois qu'on a commencé un petit peu à réfléchir à ces erreurs-là, eh bien lesquelles on intègre? Un, il faut intégrer des erreurs qui soient pédagogiques. Si vous prenez une erreur qui n'apportera rien à l'apprenant, il n'en retirera rien. C'est normal. Il faut des erreurs qui soient fréquentes, pour leur dire ça, vous le voyez souvent, mais aussi des erreurs qui ne sont pas fréquentes. Et notamment, des erreurs qui sont graves. Pensons notamment aux 12 Never Events, vous les connaissez. Ces erreurs-là, il faut vraiment s'y intéresser, puisque si l'ANSM a choisi de s'y intéresser, et l'HAS, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment qu'elles sont fréquentes et qu'elles entraînent une morbidité, mortalité très importante. Il faut que les erreurs soient vraisemblables, au sens de détectables, mais pas que. Pour leur montrer effectivement un produit bleu remplacé par un produit rouge, c'est facile à voir. Par contre, un produit translucide remplacé par un autre translucide, ça l'est nettement moins. Alors ça, c'est d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue technique. N'oubliez pas que les erreurs doivent être faciles à mettre en scène. Il ne s'agit pas d'avoir un enchaînement de situations où l'apprenant va être complètement perdu, il ne sait plus où il se trouve, il ne sait plus où il habite. Il faut quelque chose de relativement simple quand même. Et il faut que les erreurs surtout soient universelles. Il faut que ça puisse parler à des professionnels de Normandie, de Marseille, de Paris, des infirmiers, des pharmaciens. Nous, c'était notre objectif. Alors ça, c'est des petits trucs à penser pour son projet de thèse. Le scénario doit être universel. Pensez toujours cette vision universalité de votre thèse. En quoi elle est utilisable dans un autre contexte? Vous êtes aujourd'hui au CHU de Caen, vous êtes au CH de Falaise. Dans quelle mesure elle sera utilisable à Marseille, à Tours, à Angers? Et pensez également, ça c'était le travail plus spécifique ici, mais ne pas trop en ajouter. Pas vouloir en faire trop. Faire moins, mais faire bien. Et donc notamment, c'était sur le choix des sphères. Pas vouloir faire parler de toutes les erreurs, mais vraiment faire un choix. Pareil sur les points d'intérêt, ça c'est pour vous, surtout pour vous exprimer à quel point c'est important de tester et de faire tester. On avait imaginé des vidéos, sauf qu'au final, vous vous rendez compte que votre cible, c'est l'hôpital, principalement, et les centres d'enseignement comme celui-ci. À l'hôpital, essayez de mettre du son sur des PC. Voilà. Donc, insérez du dialogue à vos vidéos, on ne comprendra rien. Donc, soit vous n'en mettez pas, soit vous mettez du sous-titre. Voilà, c'est le genre d'écueil auquel il faut penser sur ces projets de thèse. Essayez de le faire aussi regarder par quelqu'un d'autre qui aura un autre regard, qui pourra vous aiguiller. Et puis, parce que ça revient un petit peu à ce que j'ai dit, le nombre d'erreurs, n'en mettez pas trop. Sinon, vous perdez le sens de votre objectif. Alors, l'organisation du projet, pour vous montrer un petit peu comment structure, quand vous voulez déployer ce type de projet sur votre thèse, il vous faut déjà un groupe de travail. Alors ça, je ne vous apprends rien. Plus un groupe de travail est multicentrique, interprofessionnel, mieux c'est. Ensuite, il a fallu réfléchir au scénario. Pour ça, un brainstorming vous permet de recueillir tout un tas d'erreurs différentes, plausibles, pas plausibles, fréquentes, pas fréquentes, etc. Et puis, une fois que vous avez commencé à les sélectionner, vous les greffez sur un scénario. Le scénario, c'est uniquement le prétexte. Là, ce cas-là, c'était une angiocolite. On n'est pas là pour savoir si c'était imputable à tel ou tel... Peu importe. Là, c'était parler d'erreur dans le cas concret, mais c'était vraiment du prétexte. Ensuite, vous validez ça d'un point de vue scientifique, quand même. Il faut que les pratiques médicales, pharmaceutiques soient conformes aux bonnes pratiques. Et d'un point de vue technique. Là, on avait un prestataire, il faut leur demander est-ce que ça, tu peux le faire ou pas. S'il dit non, vous changez, effectivement. Et interprofessionnel. Ensuite, il y a tout un travail de préparation. Préparation, on pourra en parler avec des projets qui ont été montés, notamment sur le sondage urinaire. Il faut du matériel, il faut choisir les locaux. Les locaux, comment on fait dans un vrai hôpital pour faire un tournage? À quel moment on le fait? Donc là, par exemple, nous, on est parti sur un service de médecine ambulatoire qui fermait à 18h pour faire un tournage de 18h à 22h, par exemple. Et puis, il faut briefer les figurants, parce que quand on fait parler quelqu'un, quand on le fait mettre en scène, il faut quand même qu'il sache un petit peu ce qu'il a à faire. Ensuite, il faut tourner tout ça. Nous, c'est ce qu'on a fait, ce que vous allez voir. Il faut faire des photos et des vidéos. Dans ce premier scénario, il y avait uniquement des photos. Alors, prestataire ou non, ça c'est plus pour le côté financier, on ne va pas l'aborder, c'est pas très important. Le montage, sauf si vous êtes un expert, faites-le faire par un prestataire, c'est quand même mieux. Les corrections, c'est très important, parce qu'on est sur un outil pédagogique. Donc, ok, on met en situation, on fait chercher des erreurs, mais derrière, qu'est-ce qu'on en retient? Il faut des grands messages, il faut des messages clés, des messages forts, des take-home messages par exemple, c'est comme ça qu'on dit. Et ensuite, il faut diffuser cet outil pour qu'il soit utilisé. Parce qu'on ne l'a pas fait uniquement pour nous, on ne l'a pas fait pour le projet de thèse, on l'a fait pour qu'il soit utilisé par des infirmiers, par des préparateurs, par des pharmaciens, et si possible, partout en France. Alors, je vous conseille vivement, quel que soit le projet de thèse, que ce soit quelque chose de théorique, pratico-pratique, sur quel que soit le domaine, faites toujours un diagramme de Gantt pour savoir où vous allez, et ça vous permettra de vous fixer des objectifs. Sinon, on a toujours du temps, sauf quand on n'en a plus. Donc, fixez-vous ça, au moins, ça vous mettra un petit peu la pression au début, mais vous serez satisfait à la fin. Alors, business model, c'est pas provocant, c'est pas du tout cet objectif-là, mais pensez-y toujours. Si vous proposez une nouvelle formation, si vous proposez une modalité de prise en charge, si vous proposez une nouvelle technique de préparation, pensez toujours au côté business model, modèle économique. Qu'est-ce que j'apporte? À qui? À quel coût? Est-ce que derrière, on a un retour sur investissement ou pas? Pensez à ça, c'est très important. Donc, nous sommes arrivés à la présentation de l'outil qu'on a créé, donc Iatromed pour iatrogénie médicamenteuse. 360 degrés, c'était pour rappeler la technologie. Donc pour ceux qui veulent tester, le site la page est hébergée sur le site de l'ADIF. Vous le trouvez ici en bas à droite, sur l'onglet simulation numérique en santé. je vous ai fait une petite vidéo pour aller plus vite. Donc là, on a fait juste une petite vidéo d'introduction pour ceux qui voudraient le faire en auto-formation, parce qu'ils n'auront pas à côté un formateur pour les aider. Et ensuite, voilà, vous vous retrouvez en immersion. On vous dit qu'on est en octobre 2016. Donc c'est important à avoir en tête quand vous allez voir des péremptions en 2018. À l'époque, ce n'était pas permis. Donc vous allez avoir un vrai faux dossier médical. Alors là, vous voyez que techniquement, c'est assez simple. Vous cliquez, c'est un Word derrière. On est d'accord, c'est pas quelque chose de complexe. On a tapé du Word, bien évidemment, tout ça, ça a été écrit par des pharmaciens, relu par des médecins, le scénario est relativement robuste. Et puis, bah, vous pouvez vous déplacer à 360 degrés, comme sur Google Street View, et vous pouvez cliquer sur différents points d'intérêt. Alors, ces points d'intérêt qui clignotent, on peut facilement les déplacer. C'est-à-dire que si vous voulez, là, le mettre sur la poubelle, sur le Dasri, vous pouvez. Techniquement, c'est faisable. Il faut maîtriser un tout petit peu l'informatique. Et donc derrière, on est allé mettre des photos, donc vous l'avez vu, légendées, et puis avec une bonne résolution pour pouvoir aller jusqu'aux dates de péremption ou jusqu'à des petits détails qui auraient une importance dans le scénario. Donc ensuite, vous pouvez changer de pièce. Là, vous voyez un malade, gravement malade. Voilà, et vous pouvez facilement, comme ça, switcher de pièce en pièce. J'en profite pour vous parler d'un écueil qu'on a fait, qui est très 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 important. C'est dans le côté interdisciplinaire. On a oublié les infirmiers. Quand même dommage. Quand on parle de prise en charge médicamenteuse, on n'y a pas pensé. Mais vraiment, c'est sincère. Et au final, bah, vous voyez, je suis dans le lit, je n'ai pas la tenue conventionnelle du patient. Vous voyez un médecin avec des blouses manches longues, par exemple. Vous voyez, ce genre d'erreur-là, un infirmier nous aurait dit d'emblée, ça ne va pas le faire. Donc, faites relire vos scénarios, pensez-y. Donc pendant que ça défilait, vous avez vu une clé sur un coffre à stupéfiants. Bon pharmacien, vous me dites « Ah, ça va pas du tout ». Donc là, on a greffé un petit module pour recueillir les erreurs, où vous avez juste à rentrer votre mail, l'établissement d'exercice de formation, ça c'est pour ceux qui voudraient récupérer les résultats. Donc là, on coche « Interne en pharmacie » par exemple. Et puis, on peut lister comme ça, très facilement. Vous voyez, c'est du Google Forms. Hein. En termes de coût de développement, c'est zéro. Hein. Et puis, vous pouvez mettre à l'endroit souhaité l'erreur que vous avez pu constater. Donc là, en l'occurrence, vous l'avez vu, clé sur coffre à stupéfiants. Et ce petit onglet, vous pouvez l'ouvrir et le fermer autant de fois que vous le voulez. Vous continuez votre investigation, vous regardez ailleurs, vous ouvrez le frigo, etc. etc. Et puis à la fin, bah, vous cliquez. Alors depuis, le menu a un peu changé, c'est plus ergonomique. Mais la finalité est la même. Et vous vous retrouvez sur une version corrigée. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc là encore, très simple. Hein, c'est quelque chose d'assez facile à créer en termes de contenu. Et donc là, vous avez des points, vous les avez vus clignoter pardon, en rouge. Bien, en fait, c'est la même chose que la version initiale. Simplement, on a entouré l'erreur pour la voir avec un petit commentaire. Pourquoi c'est une erreur? À quoi elle peut être due? Quels sont les risques et qu'est-ce qu'on peut proposer pour y remédier? Avec notamment des recommandations. Vous avez vu les hôpitaux universitaires de Genève, une référence pour beaucoup. Donc y compris pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me paraît intéressant à lire. Et donc, on a mis un module d'évaluation de satisfaction. Et puis, ça c'est très important parce que l'outil évolutif a un onglet pour les autres erreurs. Parce qu'au fur et à mesure, les gens vont dire « Ah ouais, mais il y a ça qui ne va pas aussi ». Il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé. Il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs qu'on a fait en nous-mêmes voulant parler d'erreurs. C'est incroyable le nombre d'erreurs qu'on fait. Quand on dit qu'on en fait 30 par heure, c'est vrai. Alors voilà pour l'outil. Maintenant, donc ça, c'est la partie matériel et méthodes de votre thèse. C'est comment on a fait pour aboutir à un outil qui sert à de la formation. Voilà. Dans votre thèse, je pense que c'est très important de parler des résultats. Qu'est-ce qu'on a eu? Alors, il y a les premières données qui sont assez simples à obtenir. C'est combien de personnes ont cliqué dessus. Alors là, on avait analysé jusqu'à février 2018 pour avoir les résultats de thèse. Il y avait eu 8000 consultations. On constate deux pics en novembre. Novembre, c'est la semaine sécurité des patients. On a répondu à un objectif. Là, on était plutôt satisfait. Ensuite, on regarde les kits téléchargés. Ça, c'est des kits qu'on avait mis à disposition pour pouvoir en fait plus facilement mettre en œuvre ces formations en établissement de santé. On leur avait fourni des PowerPoint types, des modes de fonctionnement pour eux gagner du temps. Et puis, le nombre d'évaluations, combien d'apprenants l'ont fait de A à Z avec tous les questionnaires qu'on a vus. Donc là, on avait 320 à l'époque. Aujourd'hui, on est à plus de 500. J'arrête de les corriger parce que ça prend vraiment trop de temps. Ensuite, ce qui vous intéresse, vous, c'est qui a utilisé ce que vous avez proposé. Donc là, on voit encore qu'on a répondu à la cible, parce que finalement, ce sont des infirmiers, des étudiants infirmiers, des étudiants et des internes en pharmacie. Et dans les autres professionnels, on a des préparateurs, des médecins, des sages-femmes, des cadres de santé. Alors là, petit écueil aussi, dans les autres professionnels, il y avait des aides-soignants. Et c'est bien qu'ils soient sensibilisés à l'erreur médicamenteuse, mais sur des scénarios de médecine, chirurgie, obstétrique, la place de l'aide-soignant n'est pas sur le circuit du médicament. Ils ne font pas partie des professionnels qui interviennent. Et donc, il y a quand même un risque à proposer un outil à un professionnel qui n'a pas à se former à ces problématiques-là, puisqu'il peut se sentir d'un nouveau devoir d'aller travailler sur le circuit du médicament. Donc, n'oubliez pas qu'il peut y avoir des effets un petit peu délétères aussi à ces outils-là, dans le sens où il peut y avoir des glissements de tâches. Alors, maintenant, qu'on a donné très factuel, c'est comment l'outil a été utilisé. Nous, ce qu'on préconisait, c'est le format de simulation en santé qui a été décrit par le professeur Grandry en 2012 dans son rapport HAS qui est très bien fait. Un briefing, une mise en situation, un débriefing et une évaluation. Le débriefing étant le cœur vraiment de la formation, puisqu'on dit souvent la simulation n'est qu'un prétexte au débriefing pour derrière pouvoir discuter qu'est-ce qui est une bonne pratique, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce que ce que je faisais avant c'est bien, c'est moins bien. Et donc, on a remarqué qu'il y avait des gens qui avaient les moyens, déjà. C'était un apprenant sur un ordinateur avec un débriefing final. En fait, c'est un cours personnalisé. Alors ça, c'est super. Je ne sais pas quel établissement a eu les moyens de faire ça, mais franchement, ils ont des ressources humaines en nombre et c'est très bien. Ensuite, vous avez le format plusieurs apprenants avec plusieurs ordinateurs et puis un débriefing final. C'est-à-dire que les gens travaillent seuls ou en binôme et puis à la fin, on discute. Les formats un petit peu plus low cost avec un petit groupe, un seul ordinateur, c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, et puis un débriefing final. Et puis il y a ceux qui ont fait le choix aussi d'avoir finalement un seul PC, un petit groupe, et puis un débriefing au fil de l'eau. On voit quelque chose, au lieu de le noter, on le discute. Voilà, on voit c'est mal stocké, ah bah tiens, comment on stocke une insuline, comment on stocke des stupéfiants, etc., etc. Donc ça, c'était intéressant pour nous parce qu'on ne savait pas où on allait, on ne savait pas ce que les gens allaient en faire. Donc on a proposé un outil qui était utilisable dans différents contextes. Pour rentrer un peu plus dans le vif des résultats, dans ce qui nous intéresse encore plus, c'est finalement combien d'erreurs trouvent les gens. Eh bien, nos apprenants ont trouvé en moyenne entre 8 et 12, 13 erreurs. Vous voyez les brillants résultats des étudiants en pharmacie. Ça nous permet quoi ? De savoir si l'outil est plutôt... on voulait un outil qui soit... pas trop facile, mais pas trop dur non plus. Faut pas que le simulateur soit un humiliateur. Faut que les personnes aient toujours une marge de progression. Faut pas qu'il y ait un sentiment de toute puissance, mais faut pas qu'il y ait non plus un sentiment de dévalorisation. Donc ça, on avait répondu à notre objectif initial. Alors ensuite, on peut regarder plus en détail, voir quelles erreurs sont trouvées, quelles erreurs sont pas trouvées. C'est intéressant, pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on peut se dire, bon, le suivi des réfrigérateurs, c'est très bien, les gens le savent. Après, est-ce qu'ils font bien ou pas ? Ça, c'est une autre question. Toujours est-il qu'ils sont sensibilisés. Par contre, si on leur parle d'incompatibilité physico-chimique, si on leur parle de pH, si on leur parle de quelle voie, à quel moment on clampe, on arrête, on rince et on passe... Ça, vous voyez, c'est pas acquis. Si on parle du relais IV-PEROS, pour les considérations économiques, les risques infectieux, ça, c'est pas acquis non plus. Et donc, ça vous donne des leviers derrière pour déployer d'autres types de formations. Et puis, ce qui est important, c'est l'efficacité pédagogique. Est-ce que je suis meilleur qu'un cours magistral ? Ça reste quand même une question intéressante à se poser. Puisque le financeur peut se dire, ça coûte plus cher, donc il faut qu'il y ait plus de résultats. Et donc c'est ce qu'on a fait avec les cinquièmes années, avec une évaluation pré-formation, leur niveau donc, sur l'erreur médicamenteuse avec 10 questions, ensuite un briefing, leur dire un petit peu quels sont leurs objectifs pédagogiques, ce qu'ils doivent faire. On les a ensuite mis en situation pendant 40 minutes, sur un ordinateur, à 1, à 2. Ils avaient accès à toutes les ressources, hein. Il y avait Google à côté, aucun problème, hein, au contraire. Plus ça interagit, mieux c'est. Et puis ensuite, on a débriefé pendant 40 minutes sur ce qu'ils en avaient pensé, la difficulté, le réalisme, des réflexions par rapport à les liens qu'ils pouvaient faire entre leurs enseignements, les pratiques qu'ils allaient voir après en service de soins. Et puis, on est revenu sur les erreurs une à une. Et puis ensuite, on a refait l'évaluation pour voir un petit peu s'ils avaient acquis des connaissances ou pas. Et puis, d'un point de vue courbe d'apprentissage, c'était quand même important de se dire, on va leur faire un petit rappel vaccinal à 7 jours. Et puis, on leur a dit, voilà, vous avez trouvé ça, c'est bien, vous n'avez pas trouvé ça, attention, au service de soins, votre rôle sera aussi de pouvoir identifier ces erreurs-là. Alors, ça permet de répondre à l'évaluation de la formation, à son efficacité, à son utilité. Un modèle que vous connaissez peut-être, le modèle de Kirkpatrick en 4 étapes. Donc, première étape, indispensable, la base, c'est la réaction. Dans quelle mesure les participants ont apprécié l'événement d'apprentissage. Si d'emblée, ils n'ont pas aimé, tout le reste, ça ne sert à rien d'investiguer. Il n'y aura pas d'impact, c'est sûr. Donc, est-ce qu'ils ont aimé? Oui, non. Est-ce que ça a répondu aux attentes? Vous voyez que oui ou en grande partie, vous avez plus de 95% des réponses. Et puis, la pertinence des erreurs, ils ont trouvé ça plutôt pertinent. Donc ça, c'est bien. On a répondu à une première question. Deuxième question, c'est est-ce qu'ils ont acquis des connaissances, des habiletés, des attitudes? C'est très important, parce que s'ils n'ont rien appris, autant qu'ils ne soient pas venus. Donc là, d'un point de vue, je ne vous ai pas mis les barres statistiques, mais c'est statistiquement significatif. Ils ont progressé sur tous les critères, sauf un, en plein milieu, la certification HAS. C'était un témoin négatif, c'était volontaire. J'en ai pas parlé, pour vérifier qu'ils ne trichaient pas. En fait, ça, c'est important, vous dire qu'effectivement, sinon, ils auraient pris un papier, un crayon, ils auraient pu noter les résultats, les chercher à côté et puis progresser. On voit bien que sur cette question-là, ils n'ont pas du tout triché. Ils étaient même moins bons après qu'avant, mais ce n'était pas significatif. Donc on a répondu finalement à la deuxième étape, donc c'est très bien. Après le transfert, dans quelle mesure ce qu'on a appris, on l'a transféré dans nos pratiques? Alors ça, bon courage, c'est très très complexe, ça n'était pas du tout l'objet du travail de thèse. Et puis je pense que ce n'est pas un petit module de formation dans son coin qui va permettre malheureusement d'améliorer ce transfert de connaissances-compétences, mais c'est bien des formations beaucoup plus intégrées, beaucoup plus larges, avec une sensibilisation à tous les niveaux de la formation, depuis la première année jusqu'à la cinquième année notamment. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et ensuite, vous allez faire des audits dans vos services via les étudiants, vous allez dire voilà, est-ce qu'ils sont meilleurs qu'avant sur la préparation de tel médicament, sur le stockage, sur la prise en charge, etc. Et puis, le critère le plus important, le plus difficile à obtenir, c'est les résultats. Dans quelle mesure ce que vous proposez, ça a un impact sur l'institution? Que ce soit l'établissement de formation, est-ce que mes étudiants sont meilleurs qu'avant? Ou sur l'établissement de santé, est-ce que finalement, dans les pratiques, ça a amélioré notamment la productivité? Est-ce qu'on fait plus de soins? Est-ce qu'on fait du meilleur soin? Est-ce qu'on a une satisfaction client? Alors client dans le sens relation client-fournisseur, donc ça peut être la satisfaction patient, la satisfaction du médecin, la satisfaction de l'infirmier, du pharmacien, du préparateur. Est-ce qu'on a plus ou moins de non-conformité? Et est-ce qu'on a plus ou moins de fiches de signalement d'événements indésirables? Alors attention, il peut y en avoir plus parce que les gens sont sensibilisés à la déclaration. C'est pas pour autant que vous avez plus d'erreurs. Voilà un petit peu ces travaux dans leur contexte. Alors pour aller un petit peu plus loin, je me permets d'ouvrir sur les projets ultérieurs, parce que je vous ai dit, un projet de thèse ne s'arrête pas à la soutenance, je l'espère en tous les cas. On a décliné, parce que l'objectif c'était aussi de montrer qu'un modèle comme ça, c'était un modèle low cost et qu'on pouvait facilement faire de nouveaux scénarios derrière, notamment un scénario totalement orienté cancérologie. Donc on a pris les mêmes sphères 360 et on a enlevé par exemple une poche de glucose, de G5, et on a mis une chimiothérapie. Là, par exemple, on a mis une poche avec des particules, alors on ne voit pas très bien, désolé. Et puis, on a intégré de la vidéo. Vous voyez un problème de traçabilité, vous voyez Monsieur Dupont, vous voyez le truc venir gros comme une maison, effectivement, on s'est trompé de Monsieur Dupont. Deuxième déclinaison, toujours avec la même base, hein, la même trame, on a fait une version conciliation médicamenteuse. Ça, on l'a fait avec les préparateurs au centre hospitalier d'Alençon. Et vous voyez, par exemple, l'appel à la femme du patient. Voyez interrogatoire, le préparateur qui dit « Est-ce que je peux interroger Monsieur X ?» Donc là, l'infirmier lui répond « Oui ». Vraiment comme on ferait pour une conciliation d'entrée d'un patient. Troisième déclinaison, on pourra en parler avec Thomas si vous le souhaitez. Il est là. SIMU-DM. Donc, moi, je suis plutôt centré sur le médicament et on m'a justement fait remarquer que le DM, c'était aussi important. Et je suis convaincu de ça. Et donc, il y a un projet qui a été mené, notamment en très grande majorité sur le centre hospitalier de Cherbourg, que je remercie au passage, et notamment sur le sondage urinaire. C'était un très beau projet, avec notamment beaucoup de vidéos, une très très belle qualité, une bonne réalisation, et vraiment quelque chose de très très pédagogique, notamment sur le choix des sons, le choix des matériaux, la charrière, les techniques d'hygiène, etc. Donc, on peut vraiment greffer pas mal de choses. Quatrième projet. Ça, c'est un projet, là, on change. On a dû refaire des sphères. Il avait un peu plus d'ampleur dans le sens où il était vraiment multicentrique. On a fait un tournage à Baclès, donc que vous connaissez, à Saint-Louis, hôpital parisien, et puis au centre hospitalier de Lisieux. Donc, quelque chose de vraiment très multicentrique, avec des erreurs, donc du sas d'habillage. Vous voyez également la zone de production. Et puis, on a même fait une captation dans l'enceinte, dans l'isolateur, pour justement avoir toutes les techniques de préparation. Donc là, par exemple, on avait 60 erreurs qui ont été proposées sur les bonnes pratiques, les équipements de protection individuelle et collectif, l'hygiène, le stockage. Bref, 20 points d'intérêt à chaque fois, 15 erreurs, 500 erreurs. Et puis, la dernière déclinaison qu'on a proposée, on s'est dit, on parle aux patients, on leur dit, voilà, les préparations de chimiothérapie qu'on vous fait, c'est sécurisé. Ouais, mais lui, il ne sait pas comment ça se passe, il ne comprend même pas. On lui dit, c'est une ZAC, c'est une UPAC, c'est quoi tout ça? Pour lui, c'est des gros mots. Et donc, on s'est dit, on va faire la même chose, mais sans erreur. En lui expliquant, voilà, quand on rentre, on a un SAS, on rentre, on peut s'habiller. Parce que forcément, ça a des considérations, l'air est contrôlé, et donc il ne faut pas contaminer l'environnement. Ensuite, on prépare comme ça. Vous voyez, on a une fiche de fabrication. Ensuite, il y a un double contrôle, il y a un contrôle analytique, il y a un contrôle visuel. Ça le rassure. Et ensuite, avant que ça parte dans le service pour être administré sur votre perfusion, eh bien, il y a un pharmacien qui contrôle tout pour être sûr que ce soit bien le bon produit, la bonne dose. Et donc, avec des mots simples, avec des choses simples, on en fait quelque chose de très, très pédagogique pour les usagers. Vous voyez, cette fois-ci, on change de cible, mais c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et qu'on a réussi à faire, c'est récent, c'était en novembre dernier. Alors voilà, donc les perspectives post-thèse, c'est très important, il faut forcément en avoir, il ne faut pas que le projet de thèse s'arrête, comme je vous l'ai dit. Nous, les déclinaisons, elles sont finalement assez infinies, elles s'arrêtent avec la créativité. Tout ce qui est délivrance et conseils, il y a eu des demandes, notamment au niveau parisien, pour travailler sur ce sujet-là, donc c'est quelque chose qu'on garde dans les tuyaux. La stérilisation des dispositifs médicaux, ça, je pense aussi qu'on va y aller. Si ce n'est pas en 2019, ce sera en 2020. Je m'y engage. Et puis vos propositions, bien évidemment, si vous avez des idées, des process qui vous intéressent, allez-y. Et nos projets à nous, 2019, ceux qui sont écrits, validés et sur lesquels on travaille, c'est la prise en charge médicamenteuse en néonatologie, notamment avec le Medit, hein, et puis le professeur Guillois du CHU de Caen. Et puis un projet beaucoup plus gros, cette fois-ci, un projet qui a été validé. C'est une collaboration avec la Société française d'anesthésie-réanimation, la Société française de pharmacie clinique, la Société francophone de simulation en santé, et donc notre association ADIF, où en fait, on va faire la même chose au bloc opératoire, mais cette fois-ci, on va avoir un Learning Management System, donc en gros, l'équivalent d'un Moodle, et on va interfacer ce Moodle avec des cours théoriques, des questions, des QCM, et on va les interfacer avec ce 360. Pour dire, à un moment, l'apprenant va basculer dans du 360, il va s'évaluer, voir ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, et puis il va revenir sur de la formation, notamment en lien avec les recommandations sur la prise en charge médicamenteuse qui ont été rédigées en 2016 par le groupe de travail de ces différentes sociétés savantes. Voilà, donc différents projets pour insister sur le fait que pensez votre projet de thèse pour que derrière, quel que soit votre profil, votre poste, il vous suive. Parce que je pense que c'est important. Un projet de thèse, c'est avant tout une carte de visite. Derrière, c'est ce que vous savez faire, et c'est ce que vous allez savoir faire dans votre futur hôpital. Je vous remercie.